Vous écoutez Radio Panique.
Les sources hypothétiques des histoires dont l'historique du tarot sont innombrables, nous le savons déjà, mes bien chers amis auditeurs des Radio Panique, à qui je dis bonjour, au micro comme toujours Anna, et pour nos 30 minutes mensuelles de votre émission préférée Le Chariot, de ce 1er novembre, nous allons parler chronologie. Je vais essayer de ne pas trop mettre de dates, mais il y en aura quelques-unes quand même, et oui, pour illustrer notre causerie de ce jour. Aujourd'hui, je me suis laissé séduire et inspirer par l'ouvrage littéraire « Le tarot ou la machine de l'imaginaire » publié dans les années 70 de l'auteur Alberto Custé, poète, narrateur et essayiste argentin. Nous venons d'écouter l'interprétation du bandoneoniste argentin Astor Piazzolla, un extrait de sa propre composition « Rose Dancer and the Cyclical Night ». Dans son livre « Le tarot ou la machine de l'imaginaire », Alberto Custé nous raconte donc que la première description écrite du jeu de tarot est attribuée à Cour de Gébelin, déjà évoquée dans nos émissions précédentes, et que vous pouvez toujours, mes bien chers amis auditeurs, naturellement réécouter sur les podcasts de Radio Panique. En effet, Custé affirme dans ses pages que tout ceci n'est que légende. Il critique, entre autres, Gébelin d'avoir été mené par une pensée spontanée et gratuite, sans fond de vérité, sans aucune preuve de ce qu'il racontait, car Gébelin y affirmait que notamment le tarot ne serait rien d'autre qu'un reste survécu des bibliothèques égyptiennes dispersées, mais qui ne donne aucune preuve pour défendre sa théorie, qui se révélerait trop imaginative, ayant pourtant connu un grand succès et une grande ferveur dans une époque du grand siècle de lumière, le 18e, période durant laquelle le climat et le goût des bourgeois et autres aristocraties capricieuses ayant installé l'apparition de l'occultisme de salon. Pour Custé, le mérite de Gébelin était sans doute que c'est lui-même, observant pour la première fois la richesse symbolique de figures de cartes, avait découvert en terre de Camargue, lieu où déjà les paysans l'utilisaient dans des rustiques systèmes de divination. Mais il apparaît que la certitude de ces littératures reste pourtant floue et encore contradictoire. Continuant son discours, M. Coustet l'étaya en racontant que derrière les pas de Gobelin se trouvait M. Etela, qui aurait reconstitué le tarot galant et arbitraire, qui se serait transformé en la figure favorite de la divination des salons dans la bonne société de son époque et aurait ainsi été utilisé par les plus célèbres d'entre eux, comprenant entre autres la magnifique Mademoiselle Lenormand, créatrice d'un jeu de cartes divinatoires Lenormand, un des jeux les plus célèbres de tout temps et de par le monde. Monsieur Coustet raconte encore dans ses meilleurs passages que Monsieur Aliette, par ailleurs, dénommé par l'anagramme Etela, avait déclaré que le tarot se trouvait dans le livre le plus ancien du monde, l'œuvre de Hermès Thot sur la très lointaine enfance de l'histoire de l'humanité. Il raconte par ailleurs qu'un certain monsieur Christian, en son livre « Histoire de la magie » de 1854, a quant à lui fait un pas en avant en imaginant des cérémonies d'initiation au temple de Memphis qui était alors présidé par les 22 arcanes majeurs et que chacun de ces arcanes portait en leur sein une clé de la révélation. Avec la ruine des pharaons, ses connaissances suprêmes furent, paraît-il, léguées aux pythagoriciens et aux gnostiques, et par la suite aux alchimistes. Cette synthèse imaginative de la préhistoire du tarot a apparemment perduré après, avec notamment la consécration couronnée de l'écrivain, philosophe et musicologue français Édouard Churet au XIXe siècle, qui évoque cette thématique en son livre intitulé « Les grands initiés », peut-être le premier best-seller que l'occultisme ait connu et produit. L'invention du jeu de tarot, si on peut ainsi le dire comme cela, est donc inséparable du jeu des cartes vulgaires et ont vu peut-être alors se glisser les arcanes à un certain moment historique et chronologique, venant ainsi supplanter l'innocence du jeu des cartes afin d'en dissimuler une filiation potentielle à l'ésotérisme. Rappelons que pour certains, notre jeu des cartes ordinaires viendrait de Chine ou de certaines contrées du Moyen-Orient qui auraient ainsi hérité des avatars hindous, même si notre jeu des cartes n'a pourtant rien à voir avec la luxuriante mythologie d'Inde. Quelle envoûtante voix que nous venons d'écouter, n'est-ce pas? Celle de Karunesh, extraite de son album « Le Zen Breakfast ». Maintenant, entrons, mes bien chers amis, dans notre conversation qui s'intitule de notre émission d'aujourd'hui afin d'aborder la chronologie probable de jeu de cartes, le tarot étant peut-être né quelque part entre ce jeu par rapport aux données qui sont prouvées ou mentionnées par les spécialistes de nos jours. Par exemple, le Britannique Roger Tilley, auteur de « Cartes à jouer et tarot », affirme qu'en 1120, ou aux environs de celle-ci, que les cartes ont été produites à la demande de l'empereur chinois Wu Wei Song pour distraire ses nombreuses épouses. Par ailleurs, en 1227, deux voyageurs français informaient que les enfants italiens étaient instruits aux connaissances de la vertu avec un jeu de cartes qui montrait certaines illustrations qui se nommaient les petites cartes. Le Suisse Oswald Wirth du 19e siècle, auteur du livre « Le tarot des imagiers du Moyen-Âge », devenu un classique entre les spécialistes du tarot, affirma entre autres choses que le philosophe espagnol Ramon Llull, en 1240, avait connaissance de 22 arcanes et, en cette même époque, les synodes, dénomination appelant l'Assemblée ecclésiastique de Worcester, interdisait aux prêtres d'utiliser ou de se servir du jeu du roi et de la reine, cela voulant dire le jeu des cartes, car celui-ci avait une réputation désastreuse en malhonnêteté pour qui l'utilisait, réputation qui poursuivait aussi le jeu d'échecs ou autre jeu considéré trop frivole et parfois moins innocent qu'il pourrait y paraître. La référence qui apparaît être la plus ancienne des manuscrits occidentaux et qui parle des cartes est, selon les sources les plus plausibles, le traité du gouvernement pour la famille de l'italien Pipozzo di Sandro de 1299 qui parle de l'existence d'un ibis que nous connaissons déjà. Rappelez-vous, mes bien chers amis, c'est le nom donné en espagnol et en portugais le mot « naipe » qui veut dire en français « suite de cartes » comme la suite de deniers, la suite de coupes, la suite d'épées et la suite de bâtons des arcanes mineurs. En 1332, Alfonso XIe, le roi espagnol connu comme le justicier, recommande à ses chevaliers de s'abstenir de l'utilisation du jeu de cartes. Ainsi, il existe encore plusieurs références au jeu de cartes entre 1310 et 1377 en Allemagne, au Luxembourg, en France, en Italie, souvent n'étant pas à faveur de ce jeu. Par ailleurs, si vous pensez un jour visiter Londres, n'oubliez pas de faire un saut au British Museum où vous pourrez admirer l'informe, forme de journal en latin, d'un certain prêtre allemand nommé Johannes de 1377, où celui-ci assura qu'un certain jeu appelé naipe était apparu tout en affirmant qu'il ne savait pas d'où cela venait et qui avait inventé ces jeux. Des différences semblant subsister entre six jeux où se trouvait un de ceux-ci avec 78 stamps. Il est donc tout à fait possible que ce jeu de tarot soit parmi l'un des premiers vrais jeux de tarot apparus. En 1379, une chronique d'une province qui s'appelle Viterbe, en Italie, fait déjà allusion au jeu de cartes qui, en sarrasin, parler veut dire naibe. D'où dérive par la suite naibes et naipes, qui serait le singulier de hindou nabab, qui veut dire vice-roi ou gouverneur. Cette étymologie étant une des preuves corrobées par une grande majorité des spécialistes l'origine orientale des cartes, introduite certainement en Europe par les commerçants italiens. En cette même année, la duchesse Jeanne et le duc Wenceslas acquièrent un jeu de cartes de la société nommée Ange van der Noot de Bruxelles, selon une facture trouvée en 1870 aux archives du Brabant. Un brouillon daté de 30 août 1381 du notaire Laurent Ercadi à Marseille parle ainsi de l'existence d'un jeu de cartes entre les biens d'un héritage laissé par un de ses clients. la référence de l'inventaire aux côtés de meubles, bijoux et d'autres biens donne une idée de la valeur qu'avaient ces collections colorées faites à main en tirage unique. Autre exemple, dans les registres du compte royal du roi de France Charles VI de 1392, écrit par le trésorier royal, nous pouvons lire à Jacquemin Gringoneur, peintre, pour 3 jeux de cartes dorées ayant diverses couleurs et devises faits pour le divertissement de notre infortuné roi Charles VI. De cela aurait surgi la fausse hypothèse selon laquelle, et par ailleurs refusée par presque tous les historiens jusqu'au siècle dernier, mais très répandue en France, que l'invention de ces cartes coïnciderait avec le règne de ce roi, alors qu'en fait, il semblerait bien plus exact de dire que l'apparition de ce jeu serait en fait antérieure au règne de ce roi français. Il serait donc alors important d'élucider quels sont des jeux de cartes, ceux des plus anciens jeux de tarot conservés jusqu'à nous et dont la longévité attribuée à l'artisan Gringoneur est remise en cause. Ces jeux de cartes apparaissant avec le recul comme des copies d'autres jeux bien plus anciens. Ces jeux offrant pour la première fois tout de même les 78 lames où l'illustration inclut les 22 arcanes majeurs. En poursuivant notre chronologie, prenons un autre exemple. En 1393, l'éducateur et moraliste italien M. Morelli recommande les cartes en tant que moyen d'éducation pour les enfants, matériel permettant une certaine ouverture vers le savoir et les différentes matières qui forment la pensée et pas du tout comme jeu et divertissement. Par ailleurs, la diffusion des gravures en bois, la création des corporations italiennes de peintres, des cartes et la libéralité de la cour française de Charles VI ont popularisé les cartes en tant que jeu en les premières décennies du siècle suivant. Aïe, 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 aïe. Nous venons d'écouter un extrait de Gypsy, Passion et Flamenco avec la voix de Antonio Carbonell et la guitare de José Carbonell. Les premières références au sujet de l'arrivée des Gitans en Europe auraient lieu selon le livre au royaume de Bohême en l'an de 1398, d'où ceux-ci partiraient par la suite vers la Suisse et l'Italie pour arriver finalement en Espagne vers 1427. L'Hollandais Gérard van Rijbeeck, qui a écrit au début du XXe siècle plusieurs ouvrages au sujet de l'ésotérisme, affirme par ailleurs que les Gitans ne sont pas les inventeurs des cartes en Europe, ni du tarot non plus, comme beaucoup auraient pu le penser pendant longtemps, continuant par son étude approfondie en expliquant qu'il serait tout à fait possible que ce soit les Gitans quand même qui aient découvert les possibilités de la voyance au travers des cartes. Ajoutons que selon d'autres sources, il se pourrait que Francesco Fibbia, considéré comme l'inventeur des cartes à jouer, meure à cette période 1419. Les réformateurs de la ville de Bologne de cette époque lui ont alors donné le droit comme créateur du tarocchino. Cela veut dire au petit tarot d'estamper son blason des armes sur la reine de bâton et le blason de son épouse, une bentivoglio, espèce de fleur, sur la reine de denier entre les arcanes mineurs. Mais ce point d'histoire concernant Francesco Fibbia reste pour certains d'une chronologie peu sérieuse, voire discutable. À la même époque, San Bernardino di Siena lançait en 1423, toujours à Bologne, une attaque furieuse pour en finir avec les jeux de cartes et les jeux de dés. À cette époque, les activités intitulées « Imagier du Moyen-Âge » étaient en effet en une certaine apogée et selon Wirth, les vrais créateurs des cartes du tarot seraient donc ceux-ci. Il est à noter également que 20 ans après, les peintres italiens se plaindront de la diffusion extraordinaire de ces gravures grossières qui finiront en un foisonnement et florissant commerce de jeux de cartes colorées annonçant le jeu de cartes qui arriveront jusqu'à nous. Vers 1430, Filippo Maria Visconti, évoqué lors de notre première émission Le Chariot, à Milan, aurait payé 1500 pièces d'or pour un seul jeu de cartes colorées fait à la main. C'est la naissance du tarot italien, le plus ancien arrivé jusqu'à nous. Nous aurions pu naturellement, bien chers amis, poursuivre à l'infini cette chronologie, mais nous y serons encore ce soir. Et je vous l'avoue, j'ai préféré concentrer cette chronologie sur la période historique qui me paraissait la plus intéressante aujourd'hui. Je vous invite donc à poursuivre, après l'évocation de ces dates significatives, à relire la grande littérature concernant le tarot où vous retrouverez cette histoire formidablement instructive. Avant de parler de l'arcane du jour, nous avons bien mérité cette petite pause musicale exotique, n'est-ce pas? Quelle beauté! Ce magnifique guitariste brésilien Luiz Bonfá nous a fait un sublime cadeau avec Samba de Orfeo avec l'arrangement de Norberto Pedreira. Et voici, mes chers amis auditeurs de Radio Panique, l'arcane du jour et c'est l'arcane du numéro 5, le pape ou l'hiérophant. Voici un arcane qui est un des symboles entre les plus importants et anciens du tarot. Pour les historiens, cet arcane nous raconte entre autres les dates possibles de l'apparition du jeu de tarot. Presque toujours, ici, le pape nous apparaît comme un vieux monsieur de barbe blanche. Quand il apparaît sans barbe, cela veut peut-être dire que ce jeu vient d'une époque où les papes des religions catholiques se rasaient. Si cette figure imposante se présente dans un jeu de cartes avec barbe, cela veut peut-être dire qu'il vient d'une époque où les papes ne se rasent pas. Drôle, non ? Détails qui ont du long sur les mœurs et usages de l'époque, mais c'est pourtant comme cela que les spécialistes peuvent établir des dates pour l'apparition du jeu de tarot dans le monde. Toujours assis sur un trône, très souvent, il lève sa main gauche en signe de bénédiction et sa main droite, il porte un sceptre, signe de son autorité. C'est donc une carte qui évoque les traditions, les conventions, les habitudes et il peut aussi indiquer une cérémonie religieuse ou une fête traditionnelle, rituelle, pax, mariage, baptême, communion, enterrement, etc. C'est le noir sur blanc, document signé, responsabilité, apparence austère pour certains un peu rigide. Avec cet arcane, on ne rigole pas. Il nous dit qu'il faut prendre les choses au sérieux et aller jusqu'au bout de son objectif. Si vous n'avez pas de formation professionnelle, le pape vous invite à en trouver une. Et si vous avez commencé celle-ci ou abandonné vos études sans le finir, retournez pour terminer celle-ci. Le pape est donc un arcane avec une énergie masculine à l'esprit célibataire. Et même si vous êtes marié, à l'intérieur de vous-même, cette figure vous fera peut-être encore sentir célibataire. Pour autant, le pape se veut une figure des cartes précises et nettes. Avec elle, vous savez très bien où vous en êtes sans trop de blabla. C'est une figure de forte structure corporelle qui, pour la personne qui tire cette carte, est bon présage d'une bonne santé générale. Mais attention de ne pas tomber dans un fanatisme ou une dictature personnelle d'ordre privé pouvant entraîner encore une certaine manipulation. Il y a donc bien un côté sombre, voire noir, rattaché à la symbolique du pape, pouvant conduire à s'isoler du monde car diriger, commander, marque l'être qui s'enferme dans la solitude et dans son monde intérieur. Pour finir enfin, comme à l'accoutumé, voici nos mots-clés qui désignent le pape ou hiérophant, appellation que l'on retrouve surtout pour les tarots anglais. Tradition, hiérarchie, formation, universitaire surtout, autorité, l'enseignant, le guide, le conseiller. Le pape rappelle donc la sagesse, le savoir, celui par exemple d'un professeur universitaire, d'un guide, d'un conseiller, aimant étudier et s'informer le mieux possible. Le pape représente une figure mature d'autorité et de hiérarchie. Il s'agit d'un maître bienveillant et charismatique qui sait donner de bons conseils. Le pape est aussi une image du père qui élève ses enfants et qui leur apporte une bonne éducation. Si dans un tirage des cartes, le pape vient montrer son visage, vous pouvez intuire que cela évoquera forcément le pouvoir, la bénédiction, la richesse, la signature de documents importants. Cette carte représente une manière d'être très traditionnelle et un côté religieux sans évoquer le besoin de religion. Une manière de voir les choses parfois trop strictes. La carte pour celui qui la tire peut indiquer alors un problème avec sa hiérarchie au travail. Le pape est également signe d'un esprit politicien ou politicienne, bon vivant, sage et très intelligent. Il parle aussi de choses anciennes, matérielles ou spirituelles. Il amène donc un héritage de quelque chose comme déjà souligné. Et voilà, mes chers auditeurs, ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. N'hésitez pas à aller plus loin en cherchant toujours à vous améliorer dans l'étude du tarot, car cette matière est inépuisable et toujours vivante, donc toujours en évolution pour notre plus grand plaisir. Je vous donne rendez-vous le 6 décembre, toujours à 14h30, sur votre radio préférée, la Radio Panique, pour notre dernière émission, le chariot de l'année. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Au revoir.
Thank you.